tribunal, veuillez vous lever.
Tribunal.
Audience.
Signification.
Putatif.
Amiable. Juridiction.
Convocation.
Assignation.
Procureur.
Amiable.
Constitution.
Juridiction.
Signification.
Provocation.
Amiable.
Convocation.
Relax.
Abusif.
Usurpation.
Flagrante.
Constitution.
Amphithéotique.
Procureur.
Et juridiction.
Assignation.
Usurpation.
Requête.
Excitation.
Constitution.
Authentique.
Incompétence.
Exécution.
L'audience est ouverte. Vous pouvez vous asseoir.
Le fil d'Ariane. Des informations pratiques sur le droit et la justice.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir. Donc c'est le retour effectivement de l'émission du fil d'Ariane. On remercie à nouveau le Canu Info de nous inviter à leur émission. Pour un petit rappel, le fil d'Ariane, c'est donc une petite chronique animée par un collectif de 4 avocates du barreau de Lyon qui tente d'apporter une approche pratique à des problèmes juridiques aux auditeurs. Ce soir, on va donc aborder le sujet de l'enfant et de la justice. On a souvent tendance à penser que lorsque l'enfant est impliqué dans une procédure judiciaire, on pense à la justice pénale des mineurs, à savoir si l'enfant a commis une infraction ou si l'enfant est victime d'une infraction. Ce thème fera l'objet d'une autre émission. Aujourd'hui, on va aborder deux sujets. Le premier, l'audition de l'enfant dans le cadre d'une procédure judiciaire, c'est-à-dire lorsque l'enfant intervient dans une procédure. Et dans un deuxième temps, on va aborder les cas où l'enfant est en danger, et le cas de l'assistance éducative.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Alors, d'abord, pour vous présenter juste le cadre général sur la question de l'audition de l'enfant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un article dans le Code civil, en fait, qui pose un petit peu de façon donc, générale ce cadre, qui est article 388-1, pour être précise, et qui nous dit que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge. Donc, c'est un extrait de cet article. Ce qui veut dire qu'il y a une double obligation pour les tribunaux. C'est tout d'abord de s'assurer que l'enfant a été informé de son droit d'être entendu et d'être assisté par un avocat. Et deuxièmement, que si l'enfant manifeste son intention d'être entendu, c'est qu'il a le droit d'être entendu donc, par le juge. Ce n'est pas une possibilité pour le juge, c'est une obligation. Ce qui est également intéressant de savoir, juste pour l'historique, c'est que cet article du Code civil est relativement récent, puisqu'il date de 1993, et il est venu en fait mettre en application une convention internationale, qui est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui prévoit des droits donc, pour les enfants mineurs, et notamment celui d'exprimer librement son opinion pour tout enfant mineur capable de discernement, qui prévoit que les opinions de cet enfant donc, doivent être prises en considération par la justice ou par l'administration, et qui prévoit donc expressément que l'enfant qui demandera à être entendu devra l'être par la justice ou par l'administration dans toute matière qui le concerne. Donc c'est en application de cette convention internationale que le droit français donc, a prévu la possibilité pour un enfant d'être entendu par la justice.
Mais donc, quels sont les cas où il y a une audition de l'enfant ?
Donc, on l'a vu, c'est les cas où c'est une procédure qui concerne l'enfant. Essentiellement, en pratique, on rencontre ce cas-là dans les procédures de séparation faites des parents. Je vous renvoie pour cela à l'émission qu'on a faite il y a quelques mois déjà sur la séparation parentale. C'est essentiellement ça quand on parle de procédure qui concerne l'enfant. Mais alors, attention, quand on parle de procédure de séparation entre les parents, l'enfant, il n'est pas entendu non plus sur tous les aspects de la séparation de ses parents. Par exemple, quand il a ses parents qui divorcent et qui se chamaillent sur qui a fait quoi, qui a fauté dans l'histoire et pourquoi est-ce qu'on divorce, l'enfant, il n'a pas son mot à dire. Il ne doit pas être entendu par le juge pour dire est-ce que papa a trompé maman. Évidemment, c'est bien évidemment pas sa place. Donc, il n'est pas entendu là-dessus. Il n'est pas entendu non plus sur les aspects financiers de la séparation de ses parents. Ça veut dire que le juge ne va pas l'interroger sur la pension alimentaire que papa doit verser à maman ou que maman doit verser à papa. papa. Donc c'est vraiment quand ça le concerne directement et que c'est pas qu'une question d'adulte. Mais il y a d'autres cas que la séparation des parents. Il y a aussi dans les cas de, les procédures d'adoption, l'audition de l'enfant est même obligatoire quand l'enfant a plus de 13 ans. On peut l'entendre aussi dans les procédures de changement de nom ou de prénom ou en matière de tutelle. Donc il y a quand même pas mal de procédures comme ça où l'enfant peut être entendu par le juge.
Et est-ce que tous les enfants peuvent être entendus ?
En fait, il n'y a pas vraiment d'âge qui est fixé par la loi, c'est une question d'âge. Il faut savoir, donc c'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est la notion de discernement qui va dire quel enfant peut être entendu.
Et effectivement, alors pour fixer cette notion de discernement, il n'y a pas d'âge minimum fixé par la loi. C'est une notion donc qui est assez subjective, qui est appréciée au cas par les juges. Plusieurs critères sont pris en compte, alors il y a bien sûr l'âge. En pratique, pour donner une illustration, on considère qu'à partir de 9-10 ans, un enfant a un discernement en tout cas suffisant pour être entendu par le juge. Mais pour illustrer aussi cette subjectivité, c'est intéressant de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et par exemple, en Allemagne, l'audition est obligatoire dans tous les cas pour les enfants à partir de l'âge de 3 ans, quand même. Donc voilà, c'est vraiment du subjectif.
Je sais pas trop ce qu'il peut dire à cet âge-là, mais en tout cas, il entend.
En tout cas, il peut dire des choses.
Ça dépend.
Et donc l'âge, c'est pas le seul critère pour apprécier le discernement. Il y a également le critère de la maturité, du degré de compréhension, de la capacité pour l'enfant de s'exprimer. Donc voilà, on est vraiment dans une appréciation au cas par le juge d'une notion assez subjective qui est celle du discernement.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et qui peut demander l'audition de l'enfant ? Est-ce qu'il y a seulement les parents ou est-ce que d'autres personnes peuvent demander l'audition des enfants ?
Alors, tout d'abord, celui qui peut demander son audition, c'est l'enfant lui-même. On reviendra plus tard en pratique comment l'enfant fait pour demander au juge à être entendu. Il y a également les parties à la procédure donc, qui peuvent demander cette audition, sachant que concrètement, ça va souvent être les parents ou l'un des parents en cas de séparation. Et c'est une demande qui peut être faite à tout moment de la procédure et sans forme particulière, notamment quand c'est l'enfant qui demande. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que si c'est l'enfant donc, qui demande à être entendu, comme on disait tout à l'heure, le juge ne peut pas refuser. Il a l'obligation d'entendre l'enfant, sauf si cet enfant n'a pas de discernement, premier critère, donc on rejoint ce qu'on vient de dire. Ou alors également si la procédure ne le concerne pas. C'est notamment le cas donc, qui a été exposé tout à l'heure sur des questions purement financières ou les motifs de la séparation de ses parents. C'est des choses qui ne concernent pas directement l'enfant. Donc là, le juge peut refuser de l'entendre, même si l'enfant demande à être entendu par le juge. Autre possibilité, donc c'est si les parties à la procédure et notamment les parents donc en pratique demandent cette audition. La logique de tout ça, c'est vraiment l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc c'est la considération primordiale des juges. Et donc par rapport à ce motif qui est au-dessus de tous les autres, le juge va refuser l'audition s'il estime que ça ne correspond pas à l'intérêt de l'enfant d'être entendu dans la procédure, ou alors s'il estime également que cette audition n'est pas nécessaire, donc ce que les parents demandent n'a pas d'utilité par rapport à la procédure en cours.
Et lorsque l'enfant va être entendu, comment il fait pratiquement ? Parce que c'est pas si évident pour un enfant de pouvoir demander à être entendu.
Alors c'est effectivement important parce que c'est bien joli d'avoir des droits qui sont précisés dans le code civil et tout ça, mais il faut pouvoir les exercer. Alors évidemment, ce qui est compliqué, c'est que dans tous les cas, l'enfant, pour qu'il sache qu'il y a une procédure qui le concerne, il faut déjà que ses parents lui en parlent, parce que des adultes lui en parlent, parce qu'évidemment, il n'est pas forcément au courant. Donc, une fois qu'il est au courant qu'il y a une procédure qui le concerne et qu'il veut, il veut aller voir le juge et expliquer quelle est son opinion, il y a deux possibilités. L'enfant, il peut écrire directement au juge. Alors, par exemple, dans les cas d'une séparation entre ses parents, il peut écrire directement au juge aux affaires familiales en disant qu'il veut être entendu sur cette procédure qui se passe entre ses parents. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il peut demander à être entendu par l'intermédiaire d'un avocat. Alors, il faut savoir, on va parler du cas lyonnais parce que nous, c'est ce qu'on connaît le plus, c'est qu'à Lyon, en fait, il y a un groupe d'avocats d'enfants, donc c'est des avocats spécialisés qui sont formés, qui ont passé des examens pour pouvoir être considérés comme avocats d'enfants et être être sur une liste d'avocats d'enfants. Donc l'enfant peut aller voir un avocat d'enfants. Généralement, en pratique, ce qui se passe, c'est que c'est un de ses parents. Généralement, c'est pas les deux, mais généralement, c'est un parent qui va l'amener chez un avocat d'enfants. Ou alors, c'est un parent qui va demander à ce qu'un avocat lui soit commis d'office. Et une fois que l'enfant a vu cet avocat, ben, c'est l'avocat qui, au nom de l'enfant, va faire une demande d'audition. Étant précisé que s'il y a vraiment une demande d'audition qui est faite, et c'est un point qui est quand même important, l'avocat qui intervient sera indemnisé au titre de l'aide juridictionnelle, quel que soit le niveau de vie de ses parents, en fait. Mais encore faut-il qu'il y ait vraiment une demande d'audition qui ait été faite. Donc c'est l'avocat qui peut faire cette demande d'audition, sachant là aussi, pour donner un peu des infos pratiques, en tout cas sur ce qui se passe à Lyon, il faut savoir qu'il y a une permanence juridique qui s'appelle Mercredi j'en parle à mon avocat, donc ça se tient le mercredi après-midi, c'est au palais de justice, c'est une permanence avec à la fois un avocat et un psychiatre, où déjà l'enfant il peut avoir un peu des infos juridiques sur quels sont ses droits et sur ce qu'il peut faire. Il faut savoir aussi qu'il y a une charte de l'audition de l'enfant à Lyon, avec des règles qui sont posées sur comment doit se passer cette audition, parce que c'est un cas un petit peu particulier, hein, c'est pas dans tous les jours qu'un enfant peut dire qu'il a un avocat à lui, parce que l'avocat est alors bien que celui de l'enfant, même si c'est un parent qui contacte l'avocat, l'avocat reste que l'avocat de l'enfant, ce qui veut dire en pratique que l'avocat déjà reçoit l'enfant seul, pas avec les parents. Donc le parent vient accompagner l'enfant au cabinet, mais l'avocat reçoit l'enfant tout seul. Il y a une règle, la règle du secret professionnel et de la confidentialité entre l'avocat et le client s'applique, bien évidemment, entre l'avocat et l'enfant. L'avocat va d'ailleurs expliquer lors de l'entretien quel est son rôle. Il va expliquer à l'enfant que son audition n'est pas obligatoire, parce que ce qu'on peut voir quand même parfois en pratique, c'est que c'est finalement un parent qui pousse un peu l'enfant à être entendu, parce qu'il a envie que son enfant aille dire au juge qu'il veut vivre avec lui. Donc le rôle déjà de l'avocat de l'enfant, et c'est pour ça que c'est quand même important, on dit toujours on prêche un peu pour notre paroisse, mais c'est la réalité. Nous on est là aussi pour dire à l'enfant, en fait, peut-être que ton parent ou ton papa ou ta maman t'a amené là pour que tu demandes à être entendu, mais en fait tu peux demander à ne pas être entendu. Le rôle de l'avocat, c'est aussi d'expliquer à l'enfant comment va se passer son audition devant le juge, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est un peu angoissant à un enfant, de lui dire on va aller au tribunal et tu vas rencontrer un juge. C'est quand même bien qu'il ait d'abord vu quelqu'un qui lui explique comment ça va se passer, qui lui explique aussi ce que l'enfant va dire au juge, mais ça on va l'expliquer tout à l'heure, ça va être quand même communiqué à ses parents, même si quand il va aller devant le juge, ses parents ne seront pas là, ses parents seront quand même informés de ce qui aura été dit. Et puis l'avocat de l'enfant lui explique également que il a le droit de changer d'avis, qu'il a le droit de dire un jour qu'il veut vivre avec l'un de ses parents, et qu'il a le droit de dire un jour qu'il veut être entendu, mais que finalement il ne veut plus être entendu. Donc voilà, c'est un peu ça qui se passe, et qui va faire que derrière il va y avoir éventuellement un courrier qui va être adressé par l'avocat au juge pour dire que l'enfant veut être entendu.
Donc en fait, si un enfant veut avoir un avocat, lui, il aura forcément l'aide juridictionnelle. Je reviens à ce que tu disais au début. Ce qui veut dire que l'enfant, il ne débourse pas de frais pour avoir un avocat.
L'enfant, bien évidemment.
Si les enfants nous écoutent ce soir, sachez que vous pouvez avoir un avocat.
Ses parents non plus, mais que dans l'hypothèse où il y a vraiment une demande d'audition qui est faite. Ça veut dire que s'il y a un courrier qui est vraiment adressé au juge d'affaires familiales demandant l'audition, et même si l'enfant derrière dit qu'il veut finalement plus être entendu, ou que le juge dit moi, peut-être vous, avocat, vous m'avez dit que l'enfant avait le discernement, moi je pense qu'il ne l'a pas et donc je ne l'entendrai pas. Dans ce cas-là, s'il y a au moins un courrier qui a été adressé, c'est l'aide juridictionnelle qui indemnise l'avocat, ce n'est pas les parents qui payent l'avocat, ce qui permet encore plus d'avoir cette distance entre les parents et l'avocat, même si dans tous les cas, même si c'est les parents qui
rémunèrent
l'avocat, il y a quand même le client, ça reste quand même toujours l'enfant.
Fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Concrètement, comment se passe l'audition ?
Alors concrètement, l'enfant va recevoir une convocation du juge, donc avec une date et une heure pour se présenter. À cette audition, donc, il peut être assisté par un avocat ou par toute personne de son choix. Cette audition, elle est faite soit par le juge directement, mais le juge, il a aussi la possibilité de désigner une personne pour entendre l'enfant. Par exemple, en pratique, ça va être un médiateur familial ou un enquêteur, voilà, quelqu'un que le juge va désigner donc spécialement pour ça. Alors, le déroulement concret de l'audition sur le moment, le juge va poser des questions, bien sûr des questions adaptées à l'âge et donc au degré de discernement et de maturité de l'enfant. S'il y a un avocat qui est présent donc, au moment de l'audition, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas lui qui prend la parole, c'est bien l'enfant qui va parler, qui va répondre aux questions. Et l'avocat, il est uniquement là pour guider, soutenir un peu l'enfant durant cette audition, éventuellement compléter les propos si des choses ont pu être dites et si l'avocat sait que l'enfant veut aborder certains points avec le juge. Mais véritablement, la personne entendue, c'est bien l'enfant. Et l'avocat n'est présent que pour l'assister, l'accompagner durant ce moment-là, mais pas pour parler à la place de l'enfant. À l'issue de l'audition, donc, le juge va rédiger un procès-verbal avec ce que l'enfant aura expliqué au juge, qui va être relu donc, par l'avocat, puis par l'enfant aussi, et puis signé par l'enfant lui-même. Et ce procès-verbal, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est un document qui est remis soit aux parents, aux avocats pardon, des parents, soit que les parents peuvent venir consulter directement au greffe du tribunal. Donc, ce qui veut dire qu'au final, les parents, même si c'est indirectement, auront accès au contenu, en tout cas au résumé de ce qui a pu être dit durant l'audition par l'enfant au juge.
Et quelles sont les conséquences de cette audition dans la prise de décision du juge ?
Alors là, on va casser un peu une idée reçue, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des gens qui nous disent « Bon, à quel âge mon enfant peut aller voir le juge et décider de ce qu'il veut ?» C'est pas tout à fait ça. C'est pas parce qu'un enfant est entendu que finalement c'est lui qui va prendre la décision. C'est important de le dire, c'est important de le dire notamment aux enfants, parce qu'il faut aussi les protéger un peu, qu'ils aient pas l'impression que c'est eux qui vont décider et que du coup ils se mettent un peu en porte-à-faux par rapport à un de leurs parents. On parle toujours de cet exemple de la séparation parentale, parce que c'est le problème, enfin c'est là que ça se pose le plus souvent. Donc en fait, le juge entend l'enfant, mais c'est juste un élément de plus dans l'appréciation du dossier, mais il va pas forcément suivre l'avis de l'enfant, parce que le juge il juge l'intérêt de l'enfant, et parfois les enfants, ils peuvent exprimer un avis qui correspond pas forcément à leur intérêt. Notamment, on peut voir dans des cas où il y a ce qu'on appelle le conflit de loyauté entre deux parents, et où finalement un enfant va dire je veux aller chez, par exemple chez mon père ou chez ma mère. Et en fait, c'est pas vraiment ce qu'il veut, mais il veut faire plaisir à son parent, ou il sait que le parent chez qui il dit qu'il veut aller va pas bien et qu'il veut quelque part le protéger. Donc le juge prend pas de décision qui est forcément conforme à ce que lui a dit l'enfant. C'est juste un élément de plus. Mais voilà, c'est quand même important que l'enfant sache, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'en tout cas, ce qu'il aura dit au juge, la conséquence, c'est qu'en tout cas, ses deux parents seront au courant de ce qu'il aura dit au juge. Et enfin, vaut mieux qu'il le sache avant, parce que ça peut être pas évident de dire un certain nombre de choses sur ses parents en pensant que derrière, ce sera pas su.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
On va parler maintenant de l'assistance éducative. Alors, qu'est-ce que l'assistance éducative ? C'est une procédure qui est mise en place lorsqu'un enfant est en danger et que les parents ont besoin d'aide dans le cadre de l'éducation de l'enfant, de l'entretien de l'enfant. Il peut y avoir une procédure administrative, c'est-à-dire que c'est l'administration qui va demander à ce que soit mis en place une assistance éducative, par exemple la Maison du Rhône. Souvent c'est par les éducateurs qui font appel à l'administration, qui imposent une assistance éducative, mais souvent, et lorsque c'est un peu plus grave, ça va être une procédure judiciaire d'assistance éducative, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer ce soir. Donc, on a indiqué qu'il faut que l'enfant soit en danger, mais qu'est-ce que recouvre cette notion de danger ?
Alors, c'est une notion qui est super large. On cite de temps en temps le code civil, ça paraît un peu lourd, mais c'est quand même bien de préciser c'est quoi la notion de danger dans le code civil, parce que c'est vraiment très très large, puisque ce qui est précisé, c'est que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, à ce moment-là, il peut y avoir assistance éducative. Donc la notion de danger, c'est vraiment quelque chose de très très large, et on se rend compte des parents peuvent très rapidement se retrouver devant le juge pour enfants. Donc pour donner quand même des exemples pratiques, vous pouvez avoir danger pour un enfant quand il y a par exemple ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un conflit de loyauté dans la séparation de ses parents. Ça veut dire quand la séparation de ses parents ne se passe pas bien et qu'il est un peu pris entre les deux, on peut considérer qu'il est en danger et on peut se retrouver devant le juge pour enfants. Il peut y avoir aussi assistance éducative quand un parent ou ses deux parents ont des problèmes psychiatriques, psychologiques. Donc quelque part c'est pas la faute du parent, hein, c'est comme ça, c'est la vie, le parent est malade et il peut pas s'occuper correctement de son enfant, il peut du coup y avoir assistance éducative.
Et donc comment on se retrouve devant le juge concrètement, comment l'enfant il se retrouve à rencontrer le juge?
Alors dans ce cadre-là, le juge des enfants, il peut être sollicité par plusieurs biais, soit par les parents directement, donc qui vont contacter directement le juge, soit par l'enfant lui-même, ce qui est également une possibilité, soit peut-être plus souvent par le service auquel l'enfant est confié, et enfin par le procureur de la République, ou par le juge lui-même qui peut toujours s'auto-saisir. Et c'est vrai que ça reste un cas assez théorique dans le sens où le juge n'est pas au courant de tout ce qui se passe sur le territoire sur lequel il est censé juger et assurer la protection des enfants. S'agissant de la saisine par le procureur de la République, il y a souvent à l'origine derrière ce qu'on appelle un signalement, dont on entend souvent parler. Donc c'est l'école par exemple qui va alerter le procureur de la République ou un assistant social ou quelqu'un du milieu éducatif, voilà, qui va constater qu'il y a des difficultés chez l'enfant et les faire remonter. Donc c'est des informations qui sont données d'abord au procureur de la République, qui à son tour donc va informer le juge pour enfants en lui demandant d'intervenir, donc en le sollicitant judiciairement pour qu'il intervienne comme juge. À ce moment-là, donc le juge saisi va convoquer toutes les parties pour une audience. Donc c'est les parents, l'enfant et le service si l'enfant est confié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette audience, elle peut venir assez rapidement puisque le délai minimum prévu par le code est seulement de 8 jours. Donc on peut assez rapidement en fait se retrouver devant le juge pour enfants.
Et comment se passe cette audience ?
Alors l'audience, déjà il faut savoir quand même que celle se passe en ce qu'on appelle en chambre du conseil, ça veut dire à huis clos. Ah, si je t'en prie. Pardon, j'ai des problèmes de gestion de micro. Donc ça se passe à huis clos. Ça se passe à huis clos, c'est important de le savoir, que les gens n'aient pas l'impression qu'ils vont se retrouver dans une salle d'audience avec tout un public, alors qu'on va quand même aborder des problèmes compliqués, des choses un peu intimes et qui relèvent de la vie privée. Du coup, il y a les parties qui ont été convoquées qui sont présentes, les parents, l'enfant, les services éducatifs qui sont là. Il peut y avoir des avocats aussi, les parents, et c'est important à chaque fois de le rappeler, les parents ont le droit d'être assistés d'un avocat et l'enfant aussi a le droit d'être assisté d'un avocat. Ce qui paraît important à la fois parce que les enjeux quand même de ce type d'audience sont très importants, donc c'est important que les différentes parties soient bien défendues. Et puis c'est important aussi par rapport à l'accès au dossier, parce qu'il faut savoir que quand il y a une procédure d'assistance éducative, ça veut dire qu'il y a un dossier qui est présenté au juge pour enfants, avec notamment des rapports qui ont pu être faits si la procédure d'assistance éducative date déjà de quelques temps, des rapports qui ont pu être faits par des services éducatifs, par des assistants sociaux. Donc c'est quand même bien de savoir ce qu'il y a dedans. Alors c'est prévu dans le code de procédure civile que les parents et l'enfant puissent, sous certaines conditions, je ne vais pas rentrer dans les détails, puissent consulter ce dossier-là. Mais en pratique, ça ne se fait pas forcément beaucoup. Il y a des parties du dossier qui peuvent être écartées. Et puis, donc voilà, quand il y a un avocat qui intervient, c'est vrai que l'avocat, du coup, peut demander une copie du dossier qu'il ne peut pas adresser aux parties parce que ça ne peut pas circuler comme ça. Mais en tout cas, ça permet d'accéder au dossier peut-être un petit peu plus facilement. Voilà, donc l'audience après, c'est assez informel. Le juge pour enfants pose des questions un peu à tout le monde, aux parents, à l'enfant aussi. Alors l'enfant parfois il est là pendant toute l'audience, ce qui n'est pas forcément facile hein, quand il est au milieu de ses parents et qu'il y a des choses quand même difficiles qui sont dites. Parfois il est là qu'une partie de l'audience, c'est un peu le juge pour enfants qui décide. Donc tout le monde va un peu donner son point de vue sur la situation. Et puis, il peut y avoir éventuellement plaidoirie des avocats. Et très souvent, le juge pour enfants donne sa décision tout de suite à l'issue de l'audience, au vu de tout ce qui a été dit.
Le fil d'Ariane, des informations pratiques sur le droit et la justice.
Et quelles sont les mesures que peut prendre le juge à l'issue de cette audience ?
Alors, il y a plusieurs degrés dans les mesures que peut prendre le juge, et ça va un peu crescendo. Le plus bas, on va dire, c'est les mesures d'investigation, c'est-à-dire que le juge va vouloir en savoir un peu plus sur les conditions de vie de l'enfant, pour pouvoir mieux cerner sa personnalité à lui, déjà, son parcours, l'environnement de l'enfant, donc familial, et puis également l'entourage au sens plus large. Donc vraiment, le but de cette mesure, c'est pour le juge de recueillir des informations pour pouvoir ensuite prendre une décision donc adaptée à la situation. Et c'est une mesure qui va faire intervenir différents milieux, notamment éducateurs, assistants sociaux, psychologues également, donc peuvent intervenir dans le cadre de ces mesures d'investigation. Il y a une deuxième possibilité pour le juge, c'est de prononcer ce qu'on appelle une assistance éducative en milieu ouvert, donc AEMO.
C'est plein de sujets, les procédures d'assistance éducative.
Donc l'assistance éducative en milieu ouvert, c'est la situation où on a un travailleur social éducateur qui va intervenir pour une durée donc fixée par le juge, qui peut aller de 6 mois à 2 ans et qui peut être renouvelée dans le temps, avec un rapport annuel qui est rendu donc par cette personne qui intervient. Et le but, donc, c'est que cette personne désignée va rencontrer la famille, mais également plus largement aussi tout l'entourage de l'enfant, notamment l'école, les médecins, enfin voilà, vraiment tout ce qui entoure l'enfant et la problématique rencontrée par la famille ou par l'enfant directement. Et l'idée derrière cette mesure-là, c'est d'accompagner l'enfant tout d'abord, et puis également, dans certains cas, d'apporter une aide et un soutien à la famille ou à l'entourage suite à une difficulté ponctuelle ou une difficulté plus générale. Et puis, en dernier recours, mais c'est vraiment le dernier recours, ça peut être une mesure de placement de l'enfant, soit auprès d'un autre membre de la famille, soit auprès d'un tiers à la famille, mais quelqu'un de confiance pour l'enfant, ou alors au service de protection de l'enfance. C'est vrai, le placement, donc, c'est vraiment la solution ultime, c'est le dernier recours. C'est une mesure qui ne peut pas excéder deux ans, même si elle peut être renouvelée, sauf cas donc très particulier. En pratique, c'est des placements qui sont souvent mis en place pour une durée d'une année, avec une audience relais, donc pour faire le point et pour que le juge puisse décider voilà, si ce placement est maintenu ou alors si on peut voilà, passer à une autre mesure pour l'enfant.
Mais il ne faut pas avoir peur d'être placé à chaque fois qu'on va voir le juge pour enfant.
Non, c'est vraiment le dernier recours en pratique. Après, on peut voir aussi des situations où ça va quand même très très vite. Hein. Un enfant peut être placé même tout petit, même à la naissance. Il y a des cas quand une maman qui a, comme je disais tout à l'heure, qui a des problèmes pour le coup d'ordre psychiatrique et qui sont des problèmes qui du coup sont détectés à la maternité. On voit le cas d'enfants où à peine dès la naissance, ils sont placés très très rapidement. Mais en règle générale, quand même, c'est vraiment le dernier recours parce que c'est ce qui est vraiment précisé dans les textes. L'idée, c'est quand même de maintenir au maximum l'enfant dans son environnement habituel parce que c'est évidemment pas la solution parce que c'est l'assistance éducative. L'assistance éducative, l'idée, c'est pas de punir les parents, c'est de les aider à un moment donné, on dit les aider dans leur fonction parentale. En tout cas, sur le papier, dans les principes, c'est ça. Après, en pratique, parfois, ça peut être un petit peu plus compliqué.
Et quels sont les droits de l'enfant dans cette procédure ?
Alors du coup, la particularité, de la place de l'enfant dans cette procédure, c'est qu'il est vraiment parti à la procédure, ce qui n'est pas le cas. Tout à l'heure, on a parlé de l'audition de l'enfant. Là, c'est vraiment un cas où, alors qu'il est mineur, il est vraiment parti à la procédure. Ce qui fait que notamment, il peut faire appel de la décision du juge pour enfant. Donc c'est un cas assez unique, on va dire. Il est entendu par le juge. On l'expliquait tout à l'heure sur le déroulement de l'audience. Il se retrouve lui aussi devant le juge à être entendu, à expliquer ce qui se passe. Dans ce cas-là, il a droit à être assisté par un avocat. Il faut savoir aussi que il y a pas juste l'audience devant le juge pour enfants. Après, il y a tout le reste. Quand le juge a, par exemple, mis en place, comme ça a été expliqué tout à l'heure, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ou une mesure d'investigation, ça veut dire qu'il va y avoir des éducateurs, des assistants sociaux qui vont aller voir les parents, mais qui vont aussi aller voir l'enfant, qui vont lui poser des questions sur sa vie avec ses parents, comment ça se passe, etc.
Et on imagine que dans ces cas-là, les parents, ils doivent se sentir assez écartés, exclus de l'éducation de leur enfant. Et donc, quelle est leur place, quel est leur droit ?
Alors, on a beaucoup parlé de la place de l'enfant, les droits de l'enfant dans tout ça. Mais évidemment, les parents, ils ont toujours des droits. Je vous le disais tout à l'heure, on parle d'assistance éducative. Ça veut dire que l'idée, c'est d'aider les parents, peut-être dans un moment difficile, à s'occuper de leur enfant et à faire que ça se passe mieux. Mais en tout cas, ce qui est prévu, c'est que les parents, même si l'enfant est placé, même s'il y a une mesure d'assistance éducative avec un juge pour enfants, les parents, ils ont toujours tous les attributs d'autorité parentale. Enfin, ça, c'est en tout cas le principe. Après, il peut y avoir des exceptions dans certains cas, notamment quand l'enfant est est placé. Et quand les personnes chez qui l'enfant est placé ont besoin de prendre des décisions et que le parent ne les prend pas, à ce moment-là, on peut déléguer un peu, c'est pas le bon terme, mais on peut en gros un peu déléguer l'autorité parentale à ces personnes-là. Mais sinon, en principe, les parents, ils ont quand même toujours les attributs de l'autorité parentale. Ils ont notamment, et c'est très important, un droit de visite et d'hébergement si l'enfant est placé, qui doit être fixé. Donc voilà. Si un enfant est placé, ça ne veut pas dire, bien au contraire, rupture des liens entre le parent et l'enfant. Et c'est pour ça que les parents, il faut qu'ils se défendent aussi dans ces procédures-là. L'enfant doit être défendu, les parents aussi, parce qu'il ne faut, il faut pas que les parents perdent leur place dans la vie de leur enfant, parce que le but, c'est que quand même, au final, c'est le but, et puis c'est comme ça, c'est que ces parents-là sont les parents de leur enfant. Il faut quand même toujours qu'il y ait un lien, parce que les enfants ne pourront pas se passer d'eux.
Voilà, donc ça c'était l'émission sur enfants et justice, enfants entendus, enfants en danger. Je vois qu'il me reste quasiment pas de temps. Normalement, il y a une petite chronique, le mot qu'on comprend rien. Ce soir, on va se dispenser. On voulait juste faire un tout petit mot. Il y a un tout petit mot sur la grève des avocats. Oui, il n'y a pas que la grève de la Poste. Malheureusement, il y a aussi la grève des avocats. Vous en avez sûrement entendu parler. Donc, depuis 3 semaines, le bâtonnier de l'ordre des avocats est en grève. Depuis le 22 octobre, soit depuis presque 10 jours, tous les avocats du barreau de Lyon et de très nombreux barreaux en France sont en grève et font une grève totale et illimitée, et qui concerne notamment le contentieux de la liberté. On se manifeste contre la réforme de l'aide juridictionnelle proposée par le gouvernement, une réforme qui en fait va tuer l'aide juridictionnelle, car qui baisse l'indemnité, et je ne parle pas de rétribution, je ne parle pas de salaire, vraiment je parle de cette indemnisation qui est déjà très peu élevée et que le gouvernement va encore baisser de 20 à 60%, ce qui va mettre un terme en fait à l'aide juridictionnelle, parce que les avocats ne pourront plus prendre en charge ces dossiers. Voilà, donc il y a un gros mouvement en France. C'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué aussi pour les avocats, parce qu'on peut pas défendre, on ne peut plus défendre en ce moment nos clients devant les juridictions. Mais voilà, c'est pour pouvoir continuer à les représenter, à les défendre par la suite. Et donc c'est pour ça que nous faisons grève depuis maintenant 10 jours. Voilà.
Merci.
Et bonne soirée.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Salut.